Bienvenue, nous allons débuter une nouvelle session de l'enseignement La démarche sociologique panorama des méthodes. Dans ce module, nous verrons tout ce qui concerne l'entretien sociologique, sa définition, les différentes techniques d'entretien, leur raison d'être et leur utilité, comment construire un guide d'entretien, comment gérer la question de l'enregistrement audio ou vidéo, et ensuite, pensez aussi l'entretien comme un processus de communication, avec les implications que cela a dans la gestion de l'entretien lui-même. L'entretien, une méthode fondée sur la communication interpersonnelle. Alors tout d'abord, commençons par ce que l'entretien sociologique n'est pas. Ça évitera beaucoup de malentendus. Tout d'abord, peut-être se dire qu'un entretien sociologique n'est pas un bavardage à bâton rompu entre amis, connaissances ou voisins. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie surtout qu'il ne s'agit pas d'un simple échange et d'une simple communication qui n'aurait pas été préparée et qui se déroulerait de manière impromptue et improvisée avec des personnes qu'en plus on connaît. Non, il s'agit d'une communication qui a été anticipée, pour lequel il y a eu une réflexion en amont, il y a eu une problématisation, une construction d'objets scientifiques. Et par ailleurs, le plus couramment, les personnes interviewées ne sont pas des connaissances, amis ou voisins, mais des personnes que on ne connaît pas encore, qui sont choisies sur des caractéristiques qui sont liées à la définition de la population. L'entretien sociologique n'est pas un débat polémique ou une controverse d'arguments. Ce qui est sous-entendu derrière cette assertion, c'est que l'entretien sociologique est un moment où le chercheur passe beaucoup de temps à se taire, à ne pas affirmer son opinion, à ne pas donner son avis, et surtout à ne pas contredire autrui et l'amener à essayer de changer de position. Il s'agit vraiment d'un moment d'ouverture, d'écoute sur la perspective, la façon de penser d'autrui, quelles que soient les différences, et voire même aussi contrariantes qu'elles puissent être. L'objectif d'entretien sociologique est bien sûr et avant tout de recueillir le point de vue, la façon de voir d'une personne qu'on ne connaît pas encore, ses arguments, mais certainement pas de la convaincre ou de l'influencer en matière d'opinion. Alors, bien, je viens de le dire, il s'agit de ne pas convaincre autrui du bien fondé de vos propres opinions, et d'ailleurs, il s'agit de ne pas les énoncer. Le sociologue ne donne pas son avis dans le cadre d'un entretien sociologique, sauf cas très exceptionnel où l'interviewé lui demande son opinion. Auquel cas, effectivement, le sociologue s'implique davantage, mais de manière minimale, afin de ne pas permettre qu'un effet de jugement puisse se projeter et puisse modifier le cours de la communication. L'entretien sociologique n'est pas un interrogatoire policier musclé. Ça signifie qu'on ne tient pas à tout prix à obtenir la réponse à des questions qu'on poserait. Si la personne ne souhaite pas se prononcer, si elle chante votre question, si elle l'évite, si elle la détourne, si elle répond à une autre question que vous n'avez pas posée, cela doit être accepté. La personne est là, bien sûr, pour répondre à vos questions, mais dans la mesure du respect de la dite personne. Aussi, dans la perspective de mettre en place une communication fondée sur la confiance, sur une certaine forme d'aisance qui fait que l'enquêté a envie de répondre à vos questions et a envie de vous en dire davantage, bien évidemment, faire pression est tout à fait déconseillé. L'entretien sociologique n'est pas une confession, une autorité religieuse. Ce qui est sous-entendu ou implicite derrière cette affirmation, c'est l'idée que le sociologue n'a pas de position morale à annoncer, n'a pas de principe à imposer et évite de manière, on va dire, professionnelle, il évite d'amener des jugements de valeur au sein de l'entretien. Ainsi, il évite à la personne de se retrouver en difficulté parce que jugée négativement ou de manière défavorable. Enfin, l'entretien sociologique n'est pas un espace de dévoilement de ses propres mouvements psychiques les plus intimes à son psychanalyste. Autrement dit, l'individu n'est pas là pour vous dire les tréfonds de son âme, mais simplement pour vous donner à connaître un certain nombre d'éléments et d'informations concernant sa vie ou son expérience, mais sans que pour autant un certain nombre de limites de l'ordre de l'intimité, du privé, et qui pourrait être une atteinte à son intégrité psychique ou simplement un manque de respect de sa personne soit mis en œuvre. Autrement dit, l'entretien sociologique est une posture professionnelle dans un cadre déontologique. Et ce cadre déontologique, ce cadre de communication est établi en amont de l'entretien dans le cadre de la prise de contact pour obtenir un rendez-vous, où on explique, on l'a déjà vu ensemble, toute une éthique, notamment la préservation de l'anonymat, le respect de la confidentialité et bien sûr le droit de ne pas répondre à toutes les questions. À rebours, qu'est-ce que l'entretien sociologique? Donc l'entretien sociologique, c'est une méthode de recueil de données, de recueil d'informations. Et ces informations sont collectées parce qu'elles permettent de répondre aux objectifs de l'enquête. Autrement dit, elles vont permettre de répondre aux questions de recherche et aux hypothèses qui ont été proposées. Elles sont donc connectées à la problématisation, à la construction de l'objet scientifique. Donc il ne s'agit pas de recueillir n'importe quelles informations, il ne s'agit pas de n'importe quel type de recueil, il s'agit d'une inscription dans une démarche de recherche. Pour autant, bien que ce soit de la recherche, c'est dans le même temps un processus de communication interpersonnelle qui se déroule dans un contexte social. Autrement dit, deux individus se rencontrent, deux individus qui auront des affinités ou pas, qui auront de l'intérêt l'un pour l'autre ou pas, à un niveau personnel, mais aussi qui vont se retrouver comme étant deux acteurs sociaux et donc porteurs de statut, porteurs de codes, qui mettront en œuvre des conventions sociales, que ce soit d'un point de vue vestimentaire, langagier, posture corporelle, etc., mais qui feront que chacun va pouvoir se situer par rapport à l'autre, va pouvoir identifier l'autre, mais aussi avoir une évaluation des éventuels jugements ou a priori que l'autre pourrait produire sur sa propre personne. Autrement dit, il y a une réciprocité dans la question du jugement qu'il faut assumer dans toute communication interpersonnelle. Cette situation de communication est sous la responsabilité du sociologue. Il s'agit d'une situation professionnelle pour le sociologue. C'est à lui de prendre la responsabilité de conduire l'échange. Il en est à l'initiative, mais c'est aussi lui qui manage, on va dire, la continuité de l'entretien, sa relance. C'est lui qui oriente vers les thèmes intéressants l'enquête. Enfin, cet entretien sociologique nécessite une posture spécifique pour le sociologue ou le chercheur, une posture qui nécessite de rester disponible, en éveil, à l'écoute, qui implique d'avoir un savoir-faire pour motiver l'expression de l'interviewé et qui nécessite aussi de lui permettre de favoriser le développement de sa pensée ou de sa perspective. Enfin, l'entretien sociologique est finalement et avant tout une situation de communication qui a pour objectif la collecte d'informations qui soient fiables pour les objectifs de l'enquête. Alors voici une définition de l'entretien que vous pourrez trouver dans l'ouvrage de Madeleine Gravitz, dont la référence est ci-dessous. L'entretien est un procédé d'investigation scientifique qui utilise un processus de communication verbale pour recueillir des informations en relation avec un but fixé. Alors les grandes idées à retenir de cette définition de l'entretien, d'abord, c'est qu'il s'agit, un, d'une investigation, donc on est en recherche de, et on ne sait pas a priori. On ne veut pas faire dire ce que l'on souhaite à la personne, on est prêt à entendre sa propre singularité, sa propre subjectivité. Deuxièmement, ce procédé est scientifique. Autrement dit, il est articulé à toute la première partie de construction de l'objet scientifique qui est en amont de l'enquête. Ensuite, il s'agit d'un processus de communication verbale. Processus signifie qu'il s'agit de quelque chose qui se déroule, et verbal qui aura le recueil de sons, un enregistrement de sons, d'audio, mais parfois aussi de vidéos. Donc l'objectif est bien sûr de recueillir des données, des informations, et donc le but fixé étant celui de répondre aux objectifs de l'enquête. Une des spécificités de la méthode d'enquête intitulée l'entretien est celle de recueillir des données qui sont à la fois subjectives et objectives, qui ne sont jamais que objectives et qui sont rarement que subjectives. Pourquoi est-ce que l'on peut tenir cette position? Quels sont les arguments qui la fondent? Dans le cadre de l'entretien, il est demandé à l'individu de raconter son histoire, son expérience, les situations qu'il a vécues, en bref, de déployer sa subjectivité devant l'intervieweur de façon à la permettre son analyse ultérieure. Donc, l'énoncé produit par la personne est de l'ordre de sa subjectivité. Une autre raison pour laquelle il y a subjectivité des données recueillies est que ces informations collectées, enregistrées, doivent être comprises dans le cadre d'une communication établie, communication interpersonnelle, établie dans un contexte social, donc influençant la production de données. Là encore, cette influence modifie la subjectivité de la personne qui est en train de s'exprimer. Ensuite, troisième raison pour laquelle il peut être dit que ces données sont subjectives, c'est que les informations recueillies sont issues de l'expérience de l'interviewé, de ses connaissances, de sa propre biographie. Autrement dit, elles le concernent, il est impliqué. De ce point de vue-là, les énoncés formulés par l'interviewé vont être des énoncés dont une part sera relié à des émotions, à des sentiments, à des ressentis, et ne sera pas uniquement factuel. Donc de ce point de vue-là aussi, on peut dire que les données recueillies sont subjectives. Pour autant, dans le flot d'informations qui sera recueilli, un certain nombre d'entre elles seront d'un registre factuel et pourront être traitées comme étant des données objectives, une fois bien sûr qu'elles ont été vérifiées. Bien évidemment, un individu qui vous parle et qui vous dit avoir participé à la réunion du syndicat de copropriété de son immeuble, c'est une donnée tout à fait factuelle qui peut être vérifiable et qui ne relève pas particulièrement de sa subjectivité. Voilà, donc dans l'interview, vous recueillez énormément d'informations à connotation subjective, mais qui peuvent être en même temps des éléments factuels qui peuvent être considérés par ailleurs comme objectifs. Les objectifs d'enquête pour lesquels l'entretien convient tout particulièrement. L'entretien, l'interview ou l'entrevue, trois façons de nommer la même technique d'enquête, est particulièrement susceptible de recueillir ce qui relève de la subjectivité d'autrui et donc de permettre son objectivation et son analyse. Dans le cadre de ce qui est appelé la subjectivité d'autrui, un certain nombre d'éléments relevant de la représentation, qu'elles soient individuelles ou collectives, des croyances, des opinions, de l'idéologie, des émotions, des jugements, des ressentis, etc., participent donc à ce qui est a priori souhaitable de recueillir et qui fait qu'on choisit cette méthode. Par ailleurs, on peut aussi choisir cette technique d'enquête pour enregistrer les faits ou les situations telles qu'ils ont été expérimentées, telles qu'ils ont été vécues. Autrement dit, on recueille l'histoire du point de vue de la personne enquêtée. On peut aussi avoir pour objectif de produire une analyse, mais d'une analyse qui ne soit pas basée sur des faits ou des perspectives vécues, mais une analyse qui soit une analyse à niveau méta, des analyses produites a priori et en amont par les acteurs eux-mêmes. Autrement dit, on analyse l'analyse produite par les acteurs. Dans ce cadre-là, on peut donc, dans le cadre de l'entretien, interroger les individus sur leurs opinions et sur les arguments qui sous-tendent leur position. L'entretien convient aussi particulièrement quand l'objectif est de recueillir une diversité de perspectives, de les mettre en miroir et de produire une analyse qui permet de construire l'anamnèse d'un problème ou de reconstruire l'histoire d'une situation ou d'un événement. L'entretien est particulièrement utile dans le cadre des explorations, des enquêtes exploratoires, ou ce qu'on appelle aussi une exploration préalable à une enquête par questionnaire. Mais de manière plus générale, l'entretien est particulièrement intéressant dans le cadre de ce qu'on appelle une enquête exploratoire, quel que soit le type d'enquête principale qui soit développée ensuite. L'entretien est aussi une technique d'enquête qui peut être mobilisée dans une phase complémentaire à une première enquête de type quantitative, c'est-à-dire qui a été déployée sur la base de la technique d'enquête intitulée le questionnaire. Il s'agira alors de resituer dans un contexte de sémantique les résultats obtenus dans le cadre du questionnaire. Les principaux avantages de la technique d'enquête, l'interview. L'avantage évident et absolument majeur est celui de la qualité et de la profondeur, de la richesse du matériau recueilli. C'est vraiment une technique d'enquête qui permet d'apprendre énormément de choses et qui, de ce point de vue, apporte énormément, on va dire, à la contextualisation d'une problématisation qui aurait pu être en amont par trop théorique. Voilà, donc si l'enquête exploratoire en amont de l'enquête principale a été peu déployée, il est vrai que l'entretien est un moyen de pallier à ce déficit. Par ailleurs, l'entretien est aussi une méthode qui permet beaucoup de souplesse et qui, de par sa faible directivité en général, est intéressante car elle permet aussi de se saisir de la nouveauté qui apparaît dans le cadre de l'échange, de la communication, et non seulement de s'en saisir, mais aussi de permettre son déploiement ou son développement, et donc d'en faire quelque chose d'intéressant pour la suite de l'enquête. Autre avantage de la technique de l'entretien, c'est la possibilité de respecter la façon dont les enquêtés construisent leur rapport au réel. Autrement dit, cela permet de prendre en compte, voire même d'enregistrer finalement, de documenter les cadres de référence, qu'ils apparaissent par le langage et catégories d'analyse, mais aussi simplement par le langage non verbal, la manière de se comporter au cours de l'entretien. Ensuite, l'interview est aussi une technique qui permet de découvrir des choses en cours de route et de les prendre en compte. Parce que les relances en matière de développement, de précision, de clarification sont non seulement autorisées mais souhaitables, et donc de prendre en compte ces découvertes pour ouvrir de nouvelles perspectives d'enquête et ou de nouvelles perspectives théoriques. Les principales limites de cette technique d'enquête. Tout d'abord, la très grande richesse du matériau collecté, qui fait que ces données ne sont pas directement exploitables, au sens où elles demandent et elles nécessitent d'être tout d'abord triées, ordonnées, organisées, avant que de pouvoir être analysées. Autrement dit, il y a une étape, on va dire, une première forme de construction du matériau à la donnée, qui est importante, mais qui est aussi une réduction de la richesse de ce qui a été recueilli. Deuxième limite, cette technique de recueil de données suppose un savoir-faire relationnel très important, une capacité à susciter le discours d'autrui, à générer un climat de confiance, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Enfin, troisième limite, cette technique d'enquête n'a de sens que dans le cadre d'une recherche de type compréhensif, donc d'une recherche qui s'intéresse, au point de vue des acteurs, et non pas simplement à des faits qui seraient réputés objectifs. Autrement dit, cette technique d'enquête ne peut pas être déployée dans n'importe quel cadre de problématisation. Il existe, on va dire, quatre grandes techniques d'entretien individuel. Bien sûr, je ne fais pas mention ici des différents types d'entretien collectif. Ces différentes techniques d'entretien individuel sont l'entretien ouvert, l'entretien centré, l'entretien semi-directif et l'entretien directif. On verra que chacune de ces techniques ne s'inscrit pas dans le même type d'objectif, au sens où elle ne correspond pas au même type de démarche de recherche. Ça nous permettra de faire quelques révisions du module 1 de cet enseignement. Et on verra aussi qu'elle ne permet pas de répondre ou de communiquer de la même manière, avec la même aisance. L'entretien ouvert. L'entretien ouvert correspond uniquement à la démarche inductive. La démarche inductive est la démarche qui vise une grande exploration pour poser en bout de course des hypothèses, des explications. Mais il ne s'agit donc pas de démontrer, mais simplement de proposer des significations pour rendre compte d'un phénomène observé. Donc l'entretien ouvert ne permet pas de répondre à des hypothèses et ne permet pas donc de produire une démonstration. Son intérêt, bien sûr, c'est la richesse des réponses qualitatives données. Et son deuxième intérêt, c'est une très grande liberté en termes de communication, tant pour l'enquêteur que pour l'enquêté. L'enquêteur n'est restreint que par, tout d'abord, la première consigne, ce qu'on appelle la consigne initiale, c'est-à-dire la question qui lance l'entretien. Et puis ensuite par l'ensemble des thèmes qui doivent être déployés dans le cadre de l'entrevue. L'enquêté, lui, le répondant, est limité uniquement par les thèmes qui seront proposés par l'enquêteur. Cette modalité d'entretien est particulièrement favorable à une étape de recherche exploratoire ou encore à des études de motivation. L'entretien centré, et lui, correspond à l'ensemble des démarches de recherche, démarches hypothético-déductives, démarches itératives et démarches inductives. Il permet autant d'explorer que de démontrer. Cet entretien centré autorise le recueil de réponses qualitatives d'une grande richesse, d'une grande profondeur. Par contre, il restreint davantage la liberté de communication que le type d'entretien précédent. La liberté de l'enquêteur est-elle circonscrite par la liste des thèmes à aborder? La liberté de l'enquêté est-elle limitée par les questions posées par l'enquêteur et non pas les thématiques? Enfin, cet entretien centré correspond à un panel plus vaste d'objectifs d'enquête. Il peut tout à la fois corroborer ou réfuter une hypothèse, tout autant que découvrir de nouvelles hypothèses ou de nouvelles pistes de travail dans le cadre d'une démarche itérative. L'entretien semi-directif correspond aux trois grands types de démarches de recherche que nous avons précédemment évoquées. Il permet là encore des réponses qualitatives très riches. La liberté est à nouveau plus restreinte pour l'enquêteur par la liste des questions qui ont été préalablement formulées et pour l'enquêté par les questions posées par l'enquêteur. Les objectifs de l'enquête auxquels l'entretien semi-directif correspond sont les mêmes que pour ceux de l'entretien centré, à savoir corroborer ou réfuter une hypothèse ou encore découvrir de nouvelles hypothèses ou pistes de travail. Dernier type d'entretien, l'entretien directif. Il s'agit d'un entretien qui ne permet de travailler qu'en démarche hypothético-déductive. La qualité des réponses est relativement superficielle, puisqu'il s'agit en réalité d'un choix de réponses qui est proposé à l'enquêté et entre lesquelles il va choisir, pour lequel il va opter. L'enquêteur n'est quasiment pas libre, puisqu'il doit uniquement énoncer les questions telles qu'elles ont été formulées préalablement et dans l'ordre qui a été indiqué par le guide d'entretien. Et la liberté de l'enquêté est extrêmement restreinte du fait qu'ils doivent répondre à l'intérieur des choix de réponses proposés par l'enquêteur. Les objectifs de l'enquête sont corroborer ou réfuter une hypothèse ou encore produire une analyse quantitative de données recueillies. Le guide d'entretien est le document souvent écrit avec lequel on vient en tant qu'enquêteur procéder à l'interview et qui sert avant tout d'aide-mémoire puisqu'il y est consigné soit les thèmes, nécessairement la consigne initiale, soit les questions à aborder. Cet outil aide-mémoire permettra de consulter régulièrement les éléments indiqués de manière à pouvoir évaluer le bon déroulement de l'entretien et si un certain nombre de thèmes ou de questions n'ont pas du tout été évoqués. Il permet donc aussi de relancer l'entretien ou de le cadrer au sens où de l'orienter vers les thématiques ou les questions souhaitées. Il permet donc de garder le contrôle de l'entretien. Ce guide d'entretien est produit sur la base du modèle d'analyse préalablement établi. Et autrement dit, ce guide d'entretien permet de lancer chacune des dimensions qui ont été construites à l'intérieur du modèle d'analyse. Il permet bien évidemment de répondre aux objectifs de l'enquête. L'enregistrement audio. L'enregistrement audio est particulièrement indiqué parce qu'il permet de recueillir l'intégralité des propos échangés, et pas seulement les mots, mais aussi le ton, mais aussi l'atmosphère. Il est également possible de faire des enregistrements vidéo. Autrement dit, l'enregistrement, audio ou vidéo, est le seul moyen de ne pas perdre une partie des données qui ont été échangées dans le cadre de l'entretien. Car prendre des notes dans le cadre d'une interview suppose de sélectionner les informations recueillies au moment où elles sont énoncées. Il n'est jamais possible d'écrire aussi vite que l'autre énonce ses idées. Et par conséquent, cela implique que quelques mois après l'entretien, non seulement on aura oublié une grande part de ce qu'on n'a pas écrit et pris en note, mais en plus, tous ces éléments oubliés ne pourront pas être pris en compte dans le cadre de l'analyse. Deuxièmement, ne pas enregistrer force à prendre des notes et forcer à prendre des notes suppose d'influencer le cours de l'entretien, puisque l'individu enquêté va observer les prises de notes, va même très souvent tenter de les lire pour savoir ce qui vous intéresse ou ce qui ne vous intéresse pas en tant qu'intervieweur. Et par conséquent, va modifier son propos en fonction de ce qui vous intéresse. Donc, pour ne pas influencer par trop le cours de l'entretien, il est souhaitable de ne pas prendre de prise de notes. Ensuite, enregistrer facilite une bonne écoute et la concentration sur le process de communication. Autrement dit, le fait de ne pas être concentré sur la prise de notes et sur une mémorisation des éléments importants, une sélection des éléments importants au moment de l'entretien, permet à l'enquêteur d'être disponible pour l'écoute, d'être concentré sur le processus de communication, au sens où il peut analyser une partie de la communication non verbale et éventuellement adapter ou améliorer sa manière de communiquer pour mettre davantage à l'aise son interlocuteur. Pour autant, l'enregistrement audio ou vidéo peut être générateur de stress, ce qui n'est jamais très favorable au contenu des échanges, ni même à la fluidité de l'échange. Comment faire pour dédramatiser le stress induit par l'enregistrement? De manière générale, il ne faut pas sortir votre enregistreur au moment de l'interview sans avoir prévenu et préparé en amont, au moment du premier contact, votre interlocuteur. Autrement dit, il faut avoir discuté avec lui au préalable du fait que vous avez besoin d'enregistrer, avoir expliqué les raisons nécessitant cet enregistrement, mais aussi avoir dédramatisé au sens où lui avoir demandé d'abord son accord de principe, lui avoir dit que, au moment où il le souhaiterait, l'enregistrement pourrait être coupé, et que ça serait simplement à sa demande, et que, par ailleurs, il pourrait tout à fait demander à devenir, à ce que vous lui transmettiez l'enregistrement de manière à ce qu'il puisse lui-même vérifier que, il n'y a pas de contenu qui soit gênant pour sa personne. Voilà, donc essayez de dédramatiser, de montrer aussi que pour vous, il s'agit d'une procédure extrêmement courante, que vous en avez déjà effectué un certain nombre d'enregistrements et que ça a été extrêmement utile et que ça n'a jamais posé de problème à qui que ce soit, en tout cas en matière de dommages ou en matière de dommages. Alors, ceci dit, au moment où vous proposez cet enregistrement et que vous en expliquez les différentes raisons d'être, vous pouvez être face à un refus d'enregistrement. Donc, comme on l'a dit précédemment, dans un module antérieur, il s'agit de prendre le temps de comprendre les raisons qui motivent ce refus. Il s'agit de montrer à l'individu que vous êtes prêt à accepter son refus, que vous souhaitez le comprendre et que surtout vous souhaitez éliminer autant que cela vous est possible les sources de gêne de son côté. Donc prendre le temps du diagnostic de cette gêne, d'un diagnostic commun et de lui faire des propositions pour améliorer son sentiment d'aisance dans le cadre de l'exercice. Très souvent, après ce type de négociation, l'individu, la personne accepte l'enregistrement. Il peut aussi se produire donc très soudainement dans le cadre de l'interview, l'enregistrement est en cours depuis un certain temps et tout d'un coup l'enquêté vous demande de suspendre l'enregistrement. Que faire? Bien sûr, accepter. Si vous n'acceptez pas de suspendre l'enregistrement, vous rompez de manière immédiate et probablement définitive, la question de la confiance, qui est absolument nécessaire pour obtenir des données fiables. Donc, quand vous recevez une demande d'arrêt ou de suspension d'enregistrement pendant le cours d'une interview, il est nécessaire d'accepter et d'obtempérer immédiatement. Ensuite, il faut essayer de comprendre pourquoi cette demande vous est faite. Très souvent, l'enquêté s'en explique spontanément. Pour ma part, j'ai rarement eu ce genre de situation à vivre, mais cela m'est arrivé une fois. Il s'agissait d'un entretien qui portait sur des situations de handicap. Il s'agissait de commenter des photos que je mettais à disposition des individus. Et il se trouve que la personne en question a demandé la suspension de l'enregistrement au moment où je lui présentais les photos d'une piscine, au bord duquel un fauteuil était installé et où on voyait un monte-charge qui permettait d'amener la personne jusque dans l'eau. La personne handicapée que j'étais en train d'interviewer m'a demandé de suspendre l'enregistrement au regard de la charge émotionnelle qu'avait provoquée pour elle cette photo parce que son handicap était lié à un accident de plongeon et que de voir l'image d'une piscine avec un fauteuil avait été extrêmement éprouvant et avait été vécu comme une épreuve pour elle et que donc elle avait besoin d'un certain temps pour se ressaisir. Je discute donc de cela avec elle. Je lui dis aussi que je suis désolée d'avoir provoqué cette montée de souvenirs désagréables et que je lui propose, si elle le souhaite, que tout simplement on arrête l'enregistrement et qu'on arrête même l'interview, qu'on peut s'arrêter là si elle le souhaite. Et là, elle a réfléchi, elle m'a dit que non, non, si je le voulais bien, on allait d'abord prendre le temps d'une cigarette et puis et qu'elle reprendrait l'enregistrement ensuite, mais sur la photo suivante. Voilà ce que nous avons fait. Donc, la demande d'un arrêt d'enregistrement, d'une suspension d'enregistrement, ne veut pas dire que l'interview ne va pas se dérouler et va pas arriver à sa fin, mais signifie en tout cas qu'il y a quelque chose à prendre en compte vis-à-vis de la personne qui est en face de vous et que l'empathie sera absolument primordiale dans votre capacité à négocier de manière favorable la situation. Donc la situation que je viens de vous décrire est une introduction à cette diapo suivante, qui est donc que l'entretien est avant tout un processus de communication, une relation humaine. À ceci près que c'est aussi une communication qui a des visées professionnelles. Autrement dit, c'est le sociologue qui doit assumer la responsabilité des échanges dans le cadre de l'entrevue. Ce n'est pas lui qui est guidé et qui doit accepter n'importe quelle thématique ou n'importe quel sujet qui serait proposé par l'interviewé. Pour autant, de manière à ce que l'interviewé soit en confiance, qu'il ressente un certain bien-être, une envie de vous parler, bien évidemment, il est tout à fait acceptable de le laisser dériver de manière récurrente. Pour autant, il faut quand même qu'il vous parle des thématiques et qu'il réponde aux questions que vous lui posez. Donc il y a vraiment toute une modalité d'improvisation, tout un savoir-faire, on va dire, pour on va orienter le contenu des échanges de manière pertinente au regard du recueil de données envisagé, tout en étant très souple et très disponible et à l'écoute de ce qui importe à l'enquêté et ce que lui souhaite vous transmettre. Autrement dit, même si vous avez un guide d'entretien très serré, le déroulement de l'entretien sera toujours dans une grande part improvisé et correspondra à ce qui va être négocié de manière assez informelle entre l'enquêteur et l'enquêté. Autre chose de très important à retenir en matière de communication interpersonnelle, c'est qu'il faut être dans une posture, dans une disponibilité qui suscite le discours, qui montre que vous êtes intéressé par ce que vous entendez et qui donc stimule autrui, stimule l'individu et lui donne envie de vous parler et de développer son propos. Enfin, l'entretien est aussi un processus de communication non verbale. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui viennent compléter les seuls échanges en termes de mots et dont il sera intéressant de prendre quelques notes à l'issue ou à la fin de l'entretien, une fois que vous aurez quitté l'interviewé. Ça permettra de contextualiser l'échange, puis aussi de préciser à quel stade vous avez ressenti de la gêne ou au contraire une grande aisance pour ce que vous a montré l'enquêté. Autre chose à bien prendre en considération et dont il faut prendre la mesure pour pouvoir communiquer et improviser dans cette communication de manière adaptée, c'est que précisément communiquer revient à se dévoiler. Alors, se dévoiler à plusieurs niveaux. Tout d'abord, pour l'enquêter, au fur et à mesure de l'entretien, au fur et à mesure qu'il explore les thématiques que vous lui proposez ou qu'il répond aux questions que vous lui donnez, l'interviewé réfléchit et produit un discours dont il découvre en partie la teneur. Autrement dit, il y a un certain nombre de choses qu'il sait et qu'il va vous le divulguer au fur et à mesure de l'entretien, mais d'autres, parce que il est amené à se poser des questions ou avoir une réflexion dont il n'avait pas eu jusqu'à présent l'initiative, cette situation de réflexivité va provoquer la découverte en lui-même d'un certain nombre d'idées, d'opinions, de valeurs, de jugements, qui vont l'amener à devoir se positionner par rapport à cette découverte. Autrement dit, l'enquêté, au fur et à mesure de l'entretien, se dévoile à lui-même. Il se découvre. Il apprend à mieux se connaître. Et suivant ce qu'il est amené à dévoiler, à sa propre personne, il peut éprouver des émotions extrêmement fortes, voire même de l'embarras ou éventuellement une grande inquiétude, voire de l'angoisse. Autrement dit, Il faut être vigilant aux émotions ressenties par l'enquêté et le soutenir dans ce process de dévoilement sans le pousser dans des contrées qu'il pourrait ne pas pouvoir assumer. L'entrevue, c'est se dévoiler aussi à un deuxième niveau, au sens où il va falloir expliquer à l'intervieweur, il va falloir préciser, clarifier, donner à comprendre sa propre expérience, son histoire, ses savoir-faire. Et autrement dit, il va falloir apprendre à dire, il va falloir trouver la bonne formulation, il va falloir choisir les mots, ce qui n'est pas chose facile et qui est donc une autre façon de construire, ou en tout cas une autre des modalités en œuvre de construction du discours au fur et à mesure que l'entretien se déroule. Là encore, choisir les mots, trouver les bonnes explications, arriver à permettre à l'intervieweur de bien vous comprendre, c'est se dévoiler vis-à-vis de l'intervieweur et donc se mettre en situation de jugement. Donc l'entretien est une situation où on prend des risques vis-à-vis de soi-même, mais aussi vis-à-vis de l'enquêteur. Communiquer, c'est donc faire face à un possible jugement négatif. C'est en prendre le risque, c'est en faire l'épreuve. Et donc, pour l'enquêteur, il est absolument essentiel d'être extrêmement sensible à cette question du jugement et de la disqualification toujours possible d'autrui par un mot malencontreux qui aurait été évoqué. Le sociologue, le chercheur qui mène l'entretien doit être donc particulièrement vigilant à la manière dont il s'exprime et autant qu'il lui est possible, avoir le contrôle de son expression de manière à autant à l'aise qu'il est possible l'interviewer. Alors, comment faire avec les effets du jugement dans un entretien? Que l'on maîtrise ou que l'on ne maîtrise pas, que l'on essaye d'avoir le contrôle ou qu'on n'essaye pas d'avoir ce contrôle sur les propos tenus, il n'y a pas que les propos, il n'y a pas que les mots qui transmettent un jugement ou qui produisent des effets de jugement. Et ça, c'est important de bien l'appréhender, notamment parce que ça va influer sur le type d'échange qui va se dérouler, mais aussi sur le type de propos qui vous sera tenu et enfin sur ce que vous pourrez produire en termes d'analyse. Alors pour essayer de limiter ces effets de jugement, qui sont des effets inéluctables, qui sont inhérents à la communication interpersonnelle, il est possible par exemple d'essayer d'éviter une trop grande différence en termes de distance sociale. On sait que, une trop grande différence de statut, n'est jamais favorable à une expression aisée de la personne qui est de statut inférieur. On sait aussi qu'une trop grande distance sociale, non pas en termes de statut, mais en termes de façon de penser le monde, de se représenter les choses, en termes de valeurs, n'est pas toujours favorable dès qu'elle est perçue, au sens où autrui peut être inquiet. Du fait que l'enquêteur ne pensant pas comme lui ne puisse que avoir une position un peu condescendante vis-à-vis des propos tenus. Voilà. Donc autant que possible limiter la distance sociale. Limiter la distance sociale, c'est savoir s'adapter en termes de vocabulaire, savoir éventuellement s'adapter en termes de conduite. En termes comportementaux, en termes de vestimentaire, etc. Voilà, il faut simplement ne pas être trop en écart. Une différence peut être intéressante. Il ne s'agit pas d'être le pote, l'ami, le proche de la personne interviewée, mais il s'agit non plus de ne pas être trop éloigné. On se l'est déjà dit à plusieurs reprises, éviter les jugements négatifs. Ne pas contredire, ne jamais contredire. Sauf à produire un effet d'inhibition important. qui serait liée au fait qu'il deviendrait tout à fait évident et patent que vous avez une position contraire et donc un jugement négatif sur ce qui vient d'être énoncé. Quand vous allez produire l'analyse, il ne faut pas être naïf quant aux effets que vous aurez nécessairement induits du fait de vos caractéristiques propres d'enquêteur. Vous êtes un homme, vous n'êtes pas une femme, vous êtes jeune, vous n'êtes pas vieux, etc. Et ça, vous ne pouvez pas y faire grand-chose, mais en même temps, effectivement, ça influe sur le type de propos qu'on vous tient. Enfin, dans le cadre de la posture à tenir dans le cadre d'un entretien, essayez d'être le plus neutre et le plus bienveillant possible. C'est certainement des façons d'être qui sont très favorables au déploiement aisé et fluide d'un contenu qui sera d'autant plus intéressant. Le gros de l'entretien, le gros de l'intervention du sociologue pendant l'interview consiste en la pratique de relance. Ce qu'on appelle les relances ne sont pas les questions, ne sont pas l'introduction de thématiques, mais consiste simplement en l'intervention de l'enquêteur dans la visée de soutenir l'énoncé des propos de l'enquêté. Les relances sont des moyens de stimuler l'enquêté, de montrer votre écoute, de montrer votre intérêt, de signifier tout l'éveil suscité, tout votre engagement dans la communication en cours. Il existe différentes sortes de relances qui produisent des effets différents. Vous avez d'abord les relances non verbales, dont une partie sera produite par votre personne sans que vous en ayez conscience. Essayez simplement, effectivement, de vous observer en cours d'entretien pour avoir, on va dire, progressivement un meilleur contrôle de ces relances non verbales. Dans les relances non verbales, il y a toutes les marques d'écoute qui sont signifiées par les mimiques qu'exprimera votre visage. Vous avez l'air surpris. Vous avez l'air dubitatif, vous ne semblez pas trop y croire, ça vous amuse, vous êtes particulièrement intéressé, ça produit un effet de sidération, enfin, etc. Toutes les expressions qui vont s'inscrire sur votre visage vont signifier quelque chose de ce que vous pensez, de ce que vous êtes en train d'entendre à votre interlocuteur. Dans les relances non verbales ou dans, on va dire, la stimulation non verbale, le regard est particulièrement important. Évitez de regarder autre chose que votre interlocuteur, sauf à vouloir lui signifier le profond désintérêt et le profond ennui qu'il provoque pour vous. Enfin, la posture corporelle, votre manière d'être, je sais pas, vous pouvez avoir l'air fermé, les bras croisés sur votre torse, très en retrait, qui signifie une distance, une défiance, ou au contraire, avoir une posture avancée, ou au contraire ouverte, qui montre une certaine disponibilité, etc. Pensez à observer de manière régulière votre posture corporelle, de manière à ne pas induire des messages qui seraient contradictoires avec les effets que vous recherchez en matière de communication. Il y a les marques d'écoute verbalisées quant à elles, mais qui ne sont pas particulièrement des relances, on va dire, très, très conséquente. Tous les petits mots en termes de oui, en effet, d'accord, ah, je vois, effectivement, ah, bah, ça m'intéresse, enfin, etc. Toutes ces petites marques qui signifient l'écoute visent avant tout à stimuler, à permettre à votre interlocuteur de se sentir écouté et sont particulièrement utiles dans le cadre de l'entretien. Une autre modalité de relance qui permet de signifier tout l'intérêt, mais aussi votre désir d'un développement consécutif aux propos qui viennent d'être tenus, ça s'intitule l'écho. La relance de type écho consiste à répéter les derniers mots prononcés par l'interviewé. Par exemple, il vient de vous parler de son carnet scolaire et vous lui dites carnet scolaire. Et là, point d'interrogation ou point de suspension, et votre interlocuteur comprend très directement que vous voulez en savoir davantage. Et donc, il reprend son propos en le déployant. Autre type de relance, vous demandez des informations complémentaires, ou vous avez besoin de précision et de clarification, vous voulez être certain de bien comprendre le propos qu'on vous tient. Il y a aussi les relances de type recentrage. Alors, il s'agit de ramener gentiment l'enquêté au thème de l'entretien s'il s'en écarte trop ou trop longtemps. Néanmoins, il peut arriver qu'il soit très utile d'écouter un certain temps, voire longuement, un enquêté qui digresse de manière importante. Je peux vous donner un exemple de ma pratique personnelle. Il m'est arrivé un entretien avec une personne en situation de handicap qui avait pour objectif qu'elle me raconte l'histoire de sa rééducation et sa réadaptation fonctionnelle. Donc, c'est-à-dire ce qu'elle a vécu dans le cadre d'un service de soins et le service médical après son accident. Ceci dit, vous comprenez bien que c'est une thématique qui ramène beaucoup d'émotions, qui peut être extrêmement douloureuse et qu'il n'est pas si aisé que ça de déployer devant un inconnu. Cette enquêtée a passé pas loin de 3 quarts d'heure à me raconter sa vie actuelle, autrement dit, comment il est devenu le gestionnaire d'une salle de concert de rock alternatif, quel est le type de programmation qu'il aime produire, quel est son public, comment est-ce qu'il procède en termes de communication, etc. Enfin bref, tout ce qui ne m'intéressait absolument pas, mais que j'ai écouté avec attention parce que je sentais que derrière cette communication qui pour moi était a priori inopportune, il se jouait le besoin de me montrer qu'on était quelqu'un d'intéressant, qui n'était pas seulement une personne handicapée, qui n'avait pas seulement eu un accident, mais qui pouvait aussi être un interlocuteur particulièrement, comment dire, honorable, à qui je pouvais prêter beaucoup de considération, parce qu'effectivement, il avait une carrière professionnelle absolument exemplaire, voire même étonnante et originale au regard de sa situation de handicap. Voilà. Donc, recentrer, oui, mais toujours penser que ce recentrage, en tout cas que la digression qui est mise en œuvre par votre enquêté, peut avoir du sens pour lui et peut-être nécessaire à la qualité de l'entretien ultérieur. Enfin, autre moment où la relance est nécessaire, moment de silence. Il arrive qu'il y ait des silences dans le cadre de l'entretien, des silences courts, des silences longs, des silences pesants, des silences au contraire. Qui semblent liés à une réflexion intense. Le silence n'est pas toujours gênant. C'est vrai que ça peut être très déstabilisant quand on est à ses premiers entretiens, quand l'enquêté se met à ne plus rien dire et que vous ne savez pas trop comment interpréter ce silence, vous pouvez vous sentir déstabilisé et ne pas savoir comment relancer. L'important, c'est de se dire et de dédramatiser pour soi-même, en tant qu'enquêteur, si silence il y a, ça peut être tout d'abord positif. La personne est en train de se remémorer les événements, la suite des événements qu'elle veut vous exposer. Ça peut être qu'elle est en train de se ressaisir face à des émotions qui ont émergé et qui ne sont pas si simples que ça à contenir. Ça peut être, elle est en train de mûrir sa formulation de manière à pouvoir être très claire et très explicite. Mais ça peut être aussi, et ça peut être signifiant d'un grand mal-être, et auquel cas il est important de relancer plus rapidement. Donc en général, lorsque le silence est plutôt court, on le laisse se dérouler. Et ça montre à votre interviewé que vous êtes à l'aise, que vous êtes vraiment disponible et à son écoute et que vous lui laissez le temps de s'exprimer. On relance donc quand le silence commence à trop durer, parce que probablement il est significatif d'autres choses, choses que d'ailleurs vous pouvez essayer de détecter par le langage non verbal qui est en cours dans la situation. Auquel cas, bah, vous pouvez simplement soit relancer en proposant soit une demande d'information complémentaire, des précisions, des clarifications, etc., soit en proposant un nouveau thème ou une nouvelle question, de manière à vous dégager de ce qui vraisemblablement provoque un malaise chez l'interviewé. Quand introduire une nouvelle question ou une nouvelle thématique? Tout d'abord, l'interview débute toujours avec une consigne initiale, c'est-à-dire une question, qui permet de lancer l'échange. Donc la première question est introduite au moment où on démarre l'entretien, après en avoir rappelé le cadre déontologique, la thématique de la recherche et les raisons pour lesquelles on se rencontre, etc. Ensuite, l'entretien est donc en cours de déroulement et vous avez dans vos mains votre guide d'entretien qui contient soit les thèmes, soit les questions préalablement formulées. Mais ce guide d'entretien ne doit pas être mis en œuvre de façon rigide. Il s'agit d'improviser une communication de manière à permettre souplesse, aisance et bien-être pour la personne interviewée. Le plus important dans le cadre d'une entrevue pour la personne, c'est de se sentir écoutée. Autrement dit, on n'introduit jamais une nouvelle thématique ou une nouvelle question tant que l'enquêté a quelque chose à dire. Tant qu'il n'y a pas de silence, on ne propose rien de nouveau. Ensuite, vous allez vous rendre compte dans le cadre de votre pratique de l'entretien que lorsque vous avez bien préparé votre grille, votre guide d'entretien, votre grille d'interview, un certain nombre des thématiques ou des questions que vous avez envisagées vont être spontanément abordées par l'interviewé. Il sera alors probablement pas du tout utile de réitérer la question ou d'aborder ce thème à nouveau puisqu'on vous y a déjà répondu. Sauf et à moins que vous ayez besoin d'approfondissement ou de clarification de certains éléments qui ont été tenus, qui ont été exposés. Donc, l'entretien consiste en suivre le déroulement de la pensée et de l'exposé produit par l'interviewé et de le compléter quand il y a silence, par des questions ou par la proposition de thème, de manière à pouvoir permettre à l'enquêté de continuer à produire son discours. La fin de l'entretien, généralement, est constatable au fait que les propos énoncés deviennent redondants. L'interviewé ne semble plus avoir grand-chose de nouveau à vous dire. À ce moment-là, vous pouvez commencer à lui signifier, à lui dire je pense qu'on n'est pas loin de la fin de l'entretien. Et puis dans ce cas-là, à ce moment-là, lui demander si il a quelque chose d'autre à ajouter, s'il aurait oublié quelque chose, etc. Vous pouvez prendre le temps de remplir et de confirmer, toujours dans le cadre de l'enregistrement, les renseignements signalétiques, ce qui vous permet, si jamais vous faisiez une erreur dans la documentation de votre fiche de renseignement, d'avoir le recueil de données enregistré. Bien sûr, vous remerciez et puis vous éteignez votre enregistrement une fois que vous avez remercié. Parce qu'au moment du remerciement, il peut aussi se jouer un certain nombre de choses qui peuvent être intéressantes qui peuvent être intéressantes d'avoir enregistrées. Il se trouve que, de manière assez courante, lorsque vous éteignez votre enregistrement, l'enquêté se met à vous raconter tout un tas de choses qu'il aurait pu produire au moment de l'interview, mais que, de manière un peu étonnante, il énonce une fois que l'enregistrement est arrêté. Que faut-il en faire et que faut-il en penser? Très probablement, cela signifie que cette enquêtée-là a toujours pris en compte l'enregistrement pour construire le contenu de son propos. Il n'a jamais pu complètement être, on va dire, être indifférent à la question de l'enregistrement. Et donc, il y a une influence, il y aura une trace sur le contenu proposé, qui vous a été proposé. Cependant, cette enquêtée vous fait confiance. Et c'est pour cette raison qu'il va déployer tout un certain nombre d'idées et d'arguments post-enregistrement, dont il tient à ce que vous soyez informé, mais dont il tient à ce que vous n'ayez pas la preuve audio ou la preuve vidéo. Alors, comment faire? Bien sûr, si l'enquêté l'énonce au moment où l'enregistrement est terminé, il ne s'agit de surtout pas relancer l'enregistrement. Puisque c'est précisément ce qui a fait que l'enquêté ne vous l'a pas dit plus tôt. Par contre, dans la mesure où l'interviewé tient à ce que vous sachiez ces éléments, vous pouvez en faire consigne écrite On va dire, voilà, vous remerciez l'enquêté, vous écoutez tout ce qu'il a à vous dire, vous lui dites à nouveau au revoir. Et puis, quand vous arrivez à votre bureau ou quand vous arrivez chez vous, vous prenez le temps de prendre des notes sur ce qui a été énoncé. Et ces éléments-là, en général, ne pourront pas être produits au titre de matériaux d'enquête en tant qu'interview, en tant qu'extrait d'interview, mais par contre, pourront être pour vous des pistes intéressantes sur comment construire votre grille d'analyse de matériaux, car probablement que ce contenu est un contenu à haute teneur en enjeu pour les enquêtés. Conclusion. Dans ce module, nous avons vu tout d'abord que mener un entretien sociologique nécessite des qualités relationnelles très importantes. Que deuxièmement, un entretien ne se déroule favorablement que si vous êtes sincèrement à l'écoute et sincèrement intéressé par le propos d'autrui. Car en effet, autrui est stimulé par votre propre position. Enfin, l'entretien sociologique correspond à un positionnement professionnel spécifique et qui n'a rien à voir avec une conversation, un échange dans le cadre d'une conversation de la vie courante. Dans le prochain module, nous verrons comment procéder à une observation directe.